1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestant 2017, vivre la fraternité.
Martin Luther à Schmalkalden. Schmalkalden, lieu de négociation, de prêche et de résidence de Martin Luther. Mais d'où vient ce nom, Schmalkalden? Quelle est l'histoire de la ville? Angelika Schlecker nous explique.
Le nom de notre ville vient des mots germaniques Schmalkaldaha, qui signifie un fleuve étroit et long. Et il faut dire que notre ville se trouve au bord des fleuves Stille et Schmalkalde. Et notre ville a été habitée en 6e et 7e siècle par des Francs. Et les Francs nous ont laissé leur dialecte.
D'accord.
Et le premier document officiel mentionnant la ville date de 874. Et en 1180... nous avons reçu le droit de ville et en 1335, le droit de commerce. Et ce droit était très, très important pour notre ville parce que comme ça, on a reçu beaucoup d'argent. Et avec cet argent, on a construit le premier rempart autour de la ville avec 23 portails. Et au 16e siècle, on a construit encore un deuxième rempart et entre les deux remparts, il y avait un terrain de 20-25 mètres. Et sur ce terrain-là, on a élevé des animaux, des moutons et des chèvres.
Ok, oui.
Oui. Et le 16e siècle était très très important pour notre ville parce que on est devenu une ville politique avec la Ligue Schmalkaldienne. Cette ligue s'est fondée en ville en 1530-31. Et vous voyez ici les armoiries des membres. Ce sont des vieilles armoiries et les... Non, pardon, ce sont les nouvelles d'aujourd'hui et les vieilles se trouvent autour du vieux marché. On a mis les armoiries autour du vieux marché parce que cette année, on fête l'anniversaire de Luther et de ses thèses.
De ses thèses, oui.
Oui. C'était une ligue où il y avait des membres des duchés, des théologues et des villes. Et là, il y avait des villes comme par exemple Riga, mais aussi Strasbourg, ou Hambourg, ou Lübeck et Konstanz. Si vous vous imaginez ces villes-là sur une carte, vous avez toute l'Europe. Oui. Bon, et pour cette raison, la ville est devenue très très importante et cette ligue-là a été fini en avril 1546 par la guerre schmalkaldienne. Mais ici, les troupes n'étaient pas là, les soldats n'étaient pas là, mais on a pris le nom la guerre schmalkaldienne parce que c'était à cause de cette ligue-là. Et les ducs n'étaient pas contents l'un à l'autre. Oui, et pour cette raison, les protestants ont perdu la guerre et notre duc, à ce temps-là, c'était Philippe de la Hesse, a été en prison chez Charles V.
Charles V, oui. Charles V,
Voilà. Et ici, vous avez la grande salle de notre mairie. Et c'est aussi un lieu très très important parce qu'ici était Luther. Et ici, il a ouvert la réunion la plus importante de cette ligue-là le 7 février 1537. Et il a prêché deux fois à l'église.
À l'église, ok.
Oui. Et ici, il y avait des réunions de la Ligue là pendant ce temps-là, parce que cette réunion la plus importante était entre le 7 février et le 15 mars 1537.
D'accord.
Voilà. Pour Schmalkalden aujourd'hui, il faut dire que nous avons 20 000 habitants. Mais on a attaché administrativement les villages autour de la ville. Et comme ça, nous avons un nombre comme ça. Si vous prenez seulement la ville, c'était la moitié, peu près.
D'accord.
Nous sommes une petite ville, mais nous avons quand même des monuments extraordinaires.
Terminons notre chemin à Altenburg. Située à l'est de la Thuringe, la ville d'Altenburg est aussi un lien avec les activités de Martin Luther. Mais qui est Spalatin? Quelle est son histoire? Que souhaiterait Martin Luther à cette époque? Christine Buring, commissaire de l'exposition, nous explique.
Spalatin, le courtier, les gérants de la Réformation, qui dans la deuxième partie de sa vie se trouve dans cette église de Saint-Bartholomé à Altenburg, comme le responsable, prêtre, et il inventait une nouvelle version d'une ville réformée. Parce qu'au moment qu'on abandonnait l'idée qu'on pouvait payer pour son salut avec des actions ou de l'argent, les gens, on devait réorganiser toute la communauté d'une ville. Et c'est ça ce qu'il a fait, Spalatin. Il a inventé comme une taxe pour les œuvres sociales. Il a commencé de réorganiser les territoires qui appartenaient avant à l'Église, de fermer les abbayes. Et en même temps, il travaillait pour les ducs de son territoire comme un administrateur dans une sorte de qualité, quality control, contrôle des qualités des églises qui, elles, chacune, commençaient de se organiser dans ce nouveau monde de la Réformation. Hein, il fallait refaire les églises, s'en sortir des saints, avoir des messes différentes à la place des images, via la musique. Donc, tout un tas de choses changent. Il y a des gens qui n'ont plus de profession, parce que c'est des choses qu'on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de moines, mais on a besoin des professeurs.
D'accord.
Des choses pareilles, et c'est lui qui organise ça. Et comme on est dans les archives, il écrivait beaucoup. Donc on sait très exactement ce qu'il faisait, et c'est ça ce qu'on essaye dans cette église de montrer, ce qui veut dire la réformation pour jusqu'à nos jours, dans l'organisation d'une société basé à l'égalité et à la fraternité et à la liberté, donc très français.
Super.
Et là, vous avez la famille, et ça c'est Charles. Et non, ça c'est Charles, et ça c'est ses soeurs, un frère qui a été vraiment marié partout. Hein. Et les Turcs avaient tout ça, donc ça poussait. Hein. Et donc, chaque fois que les Turcs bougent, et Charles a besoin d'une paix ou de l'aide des nobles, il devait parler avec les nobles protestants, et ça augmente la chance de faire valoir leurs idées. Vous voyez, ici, c'est le frère du duc, donc c'était deux, vous voyez, Luther, et Melanchthon, qui est l'autre des réformateurs, qui est beaucoup plus connu, mais c'est Spalatin qui fait engager Melanchthon, parce que c'est Spalatin qui est responsable de l'université de Wittenberg, où aussi Luther est engagé comme professeur. Donc Spalatin est toujours entre le duc Friedrich et Luther. Et c'est la chose Luther, c'est son truc.
D'accord.
Donc il est intermédiaire et gérant en même temps. Et ouais, ici, c'est le papier de la Ligue de Schmalkalden, quand il perd la guerre. Le duc perd aussi la position de l'électeur. Il le donne à une autre ligne de la même maison de Wettin. Donc le pouvoir bouge de ce territoire-là vers Dresden. Et le duc travaillait à Weimar, mm-hmm. et ont une résidence beaucoup plus petite, et Altenbourg pendant assez longtemps, et entre les deux, mm-hmm. Jusqu'à ce que ça devienne aussi de la part des ducs de Weimar. Et donc c'est une histoire de territoire. Et vous voyez ici que l'Église était propriétaire de pas mal de territoires là-dessus. Que ça se faisait partie de l'Église. Ça c'est le territoire des Vétines. Et chaque fois, vous avez d'autres. Donc c'était pratique. Et Henri VIII de l'Angleterre, par exemple, il solutionnait son problème financier avec la Réformation, parce que tout simplement, il déclarait que toute la propriété de l'Église, à partir de maintenant, appartient au roi d'Angleterre. Ce qui n'était pas possible dans les royaumes de l'Allemagne, parce qu'on avait un système pas centralisé. Donc. Mais ils auraient bien voulu faire ça.
Oui. Et on va de l'autre côté. Ce qui vous intéresse, peut-être encore pour l'Église, on essaye dans l'Église d'expliquer une Église. Pourquoi l'Église catholique a des saints? Qu'est-ce qui est un saint pour les protestants? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui fait un saint? Les sacrements. Parce que ce n'est pas ici, ce n'est pas clair hein, ce qu'ils veulent les chrétiens. Donc la foi. Expliquer la foi dans l'endroit où se fait la foi.
Oui.
Où se lève. Et l'hôtel, c'est la même chose, c'est un hôtel qui est catholique. Et j'ai mis le protestant juste à côté. Hein? Parce que la version du protestantisme dit tout simplement qu'on n'a pas besoin d'une église pour arriver à Dieu. C'est Jésus qui est le lien entre les hommes et Dieu. Donc on n'a pas besoin. On peut. Les saints sont des exemples de comment bien faire dans la vie. Donc ils sont pas non existants, mais c'est que des exemples. C'est d'autres hommes qui ont bien fait, qui ont vécu d'après la volonté de Dieu. Mais ils n'étaient pas les intermédiaires. Ils n'avaient pas le droit d'être intermédiaires. Hein? Et donc ça suffisait complètement d'avoir Jésus. Parce que Luther, il pensait qu'il ne fallait pas faire du théâtre.
Oui, c'est ça.
Et c'est pour ça que les protestants, ils sont noirs. Ils sont noirs parce que c'était les robes des professeurs à l'université. Donc ils sont faits, ils n'ont même pas changé.
Oui, c'est ça.
Ils sont allés dans les églises, dans leurs vêtements de tous les jours. Qui était par hasard noir.
D'accord.
Et les autres faisaient du grand spectacle. Et le grand spectacle pour les protestants, et je trouvais ça très intéressant parce que c'était un développement également. Et il fallait donner quelque chose aux chrétiens. Mm-hmm. Premièrement, il fallait leur expliquer ce qui disait la messe, mm-hmm. donc les traductions en allemand. Mais de l'autre côté, ils inventaient l'idée de la chanson. Ce qu'avant, dans l'Église catholique, était la chanson qu'on ne voyait pas, des moines, hein, des voix qui venaient du ciel presque, hein, devenait la congrégation et il faisait partie de la messe. Mm-hmm. Donc très moderne. Et Luther faisait une enquête avec tous ses amis. Donnez-moi des chansons, j'ai besoin des chansons. Donc il prenait des chansons populaires, il mettait des textes de la Bible dessus. Et donc on avait besoin, à la place d'un artiste qui faisait de la beauté sur un peintre, on avait besoin de musiciens.
Oui.
Et c'est pour ça, ici, dans cette crèche de la Réformation, c'est aussi la crèche de la musique allemande. Et Bach, ça a une raison pourquoi ils sont là. Ou Handel, ou Telemann. Mm-hmm. C'est parce que cette musique, c'est ce qui faisait les chrétiens partie de ce ciel.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.